Voilà. Persévère, mais non dans le compromis. On va voir tout à l'heure justement pourquoi que l'Esprit dit cela à cette Église. Donc, ces études que nous faisons à travers ces lettres aux Églises va nous montrer ce que le Seigneur veut pour son Église, va nous montrer aussi surtout les dangers qui nous guettent en tant qu'Église. Et même, comme on a dit, si ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, nous retrouvons régulièrement ces différents thèmes, sujets, dangers dans nos églises. Et surtout aujourd'hui, dans ce que nous allons regarder à travers l'église de Pergame, on va voir des dangers qui guettent aussi l'église d'aujourd'hui qui peut le faire. Donc, ces révélations sont là, comme on le voit dans le chapitre 1, verset 3. Il dit: Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Donc, dès les premiers instants, Jean va dire que c'est important, important de lire ces paroles, de les comprendre, de les entendre pour que nous puissions obéir. Pas juste de les entendre pour qu'après on passe à autre chose, mais entendre et obéir. Et voilà ce qu'on veut faire encore aujourd'hui, dire: Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aussi à travers cette lettre à l'église de Pergame? Ces prophéties, justement, sont apportées pour que les personnes puissent les écouter. On soit averti que le temps de la fin est proche. Et comme on l'a prié encore tout à l'heure, on voit tout autour de nous ces différentes guerres, ce qui se passe aussi en Palestine, avec Israël et la Palestine, sont des avertissements que nous sommes dans le temps de la fin. Donc, ça ne doit pas nous faire peur dans le sens de nous faire peur et de dire, ça y est, on va paniquer, mais surtout de nous préparer, d'être prêts si le Seigneur revient, que nous soyons prêts, que nous soyons cette église qui est rayonnante, une église qui est pure, sans tache, qui est prête à recevoir le Seigneur. Donc, la dernière fois, nous avons vu l'église de Smyrne qui n'avait pas eu de reproche ou pas d'avertissement de changer quelque chose. Donc, il y a deux églises dans les sept qui ne reçoivent pas des reproches, mais des encouragements, des recommandations pour continuer d'aller de l'avant. Donc, on dit que cette église est un peu le synonyme des symboles de toutes les églises et des croyants persécutés, durant tout le millénaire, depuis plus de 2000 ans. On voit comment que l'église est persécutée. Et cette lettre démontre comment qu'on doit persévérer dans les difficultés. Verset 9 du chapitre 2, verset 9 du chapitre 2 qui dit: Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Donc ce bout de phrase ne parle pas des richesses matérielles, mais plutôt de richesses spirituelles. L'église de Smyrne était petite, sans éclat, sans apparence par rapport à celle, peut-être comme on a vu, celle d'Éphèse. Mais elle était riche parce qu'elle a gardé justement cette flamme pour le Seigneur, tellement intacte que Jésus n'a rien à lui reprocher. Elle a été persécutée, mais elle est restée fidèle. Elle était fidèle, pourquoi? On peut le voir dans le prochain dia. Dans la persécution de la tribulation, elle est restée fidèle. On a vu que justement cette église, il y avait de nombreux juifs dans cette ville. Et les juifs apportaient cette persécution à ces nouveaux chrétiens par des injures, par une persécution qui était vraiment terrible. Et certains ont été même mis en prison. C'est vrai qu'on est toujours étonné, et moi le premier, lorsque je lis des rapports sur l'église persécutée. Comment que l'Église, là où il y a la persécution, c'est là que l'Église est la plus vivante. De dire, mais c'est là que les chrétiens doivent se cacher, doivent faire attention à ce qu'ils disent pour ne pas être persécutés, arrêtés ou mis en prison. Mais c'est là que l'Église vit les plus grands miracles, la plus grande puissance. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est persécuté, on n'a pas le choix de dire, soit je marche avec le Seigneur d'une façon juste, ou soit que j'abandonne. On ne peut pas être entre deux. L'église de Smyrne était aussi une église sans hypocrisie. Justement, lorsqu'on est persécuté par notre foi, on ne peut pas être un jour chaud puis un jour froid. On ne peut pas être tiède parce que la persécution amène justement notre foi à grandir, à avoir confiance en Dieu, à garder les yeux fixés sur Dieu, même si peut-être notre corps souffre, même si nous sommes rejetés par la société ou par d'autres. Donc, comme il est dit sur l'écran, la persécution est un feu qui brûle le péché dans l'Église. Et il faut avouer, et c'est vrai, que dans nos églises, dans nos pays occidentaux, Ben, on ne vit pas forcément beaucoup de persécutions physiques, on vit d'autres persécutions. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de péchés dans l'Église parce que la persécution n'est pas présente, ou moins grande que peut-être dans certains pays au Moyen-Orient, ou peut-être comme en Chine ou dans d'autres pays. Il y a cette promesse dans le verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait entendre, de recevoir, de dire, je vais avoir la couronne de vie, c'est-à-dire je vais être sauvé pour l'éternité avec Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut qu'on reste fidèle, malgré les défis, les persécutions, de rester fidèle dans la persévérance. Même si des fois, à un moment donné, peut-être on ne voit pas Dieu agir à tous les jours, même si des fois on a l'impression que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours présent. Des fois, peut-être il se tient en arrière pour nous permettre de grandir dans cette foi. Donc cette lettre à l'église de Smyrne nous encourage à rester fidèles jusqu'au bout. Parce que Jésus est fidèle à sa promesse qu'il donnera la couronne de vie à celui qui restera fidèle. Donc ouvrons notre Bible maintenant et allons lire dans Apocalypse chapitre 2. Versets 12 à 17, donc cette lettre à l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Donc voici ce qu'il dit au verset 12. À l'ange de l'église de Pergame écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices et se livrent à la débauche. Verset 15. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Le verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Donc regardons avant tout la ville, Pergame, qui signifie tour élevée ou entièrement mariée. Donc c'est la ville la plus importante de la Mysie. C'est une capitale d'un royaume opulent. Pendant plus de 200 ans, elle a été la capitale de toute l'Asie. Cette ville existe encore aujourd'hui. Elle s'appelle en Turquie Bergame, donc Bergame. Et elle est située à peu près à 80 km de la ville de Smyrne qu'on a vue la semaine passée. Donc il y a une légende qui affirme que la ville aurait été fondée par le fils du célèbre homme fort Hercule. C'était une ville qui était très riche. Pour Alexandre le Grand, la ville était comme sa petite Suisse, dans le sens que c'était l'endroit où il plaçait une partie de son argent. Elle possédait une immense bibliothèque. L'empereur romain Marc-Antoine, à un moment donné, quand il y a eu le feu à Alexandrie, il a donné plus de 200 000 volumes de la bibliothèque de Pergame à Cléopâtre. À Pergame, il y avait l'obsession de la grandeur. Tout devait être plus grand. Les colonnes, les temples, l'amphithéâtre, les terrains. Donc, si Éphèse était reconnue pour son temple, la déesse Diane, Pergame était reconnue pour la taille imposante et le nombre de ses sanctuaires. On pouvait admirer le temple d'Athéna, déesse de la sagesse, Bacchus, dieu des festivités, et le temple d'Esculape, qui est le dieu serpent de la santé. Derrière la ville, donc, il y avait une immense colline qui était couverte de temples païens. Et il y en avait d'autres, l'immense autel de Zeus, c'est une plateforme qui était taillée dans le roc. Le culte de l'empereur s'implanta à cet endroit plutôt qu'à Éphèse ou à Smyrne, d'où le nom là où est le trône de Satan. Là où est le trône de Satan. On le voit sur l'image, un peu une image de justement comment que cette ville était une ville où il y avait énormément de temples, énormément de déesses, d'adoration. Prochain dia. Donc, on voit que la salutation au verset 12 est assez directe pour cette église. Pourquoi que Jésus emploie cette expression qui tient l'épée aiguisée à double tranchant? Cette épée, c'est Jésus qui la tient et va frapper au temps voulu ceux qui ne sont pas juste devant lui. Il est parlé un peu de cette même épée dans le chapitre 1, verset 16. Il dit, dans sa main droite, il tenait cette étoile et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. On sait que lorsque Jésus va venir juger les nations et va juger les hommes, ce sera comme une épée à double tranchant qui va faire mal, qui sera sans pitié pour ceux qui auront commis le mal. Mais comme on l'a vu, comme cette ville était une ville axée sur l'adoration des dieux, Jésus avait besoin de dire, je vais venir avec une épée à double tranchant. Je vais séparer ce qui est juste de ce qui est faux, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et au verset 13, il a mis le contexte de l'Église. Donc il donne le bon côté de l'Église, ce qui est positif. On ne sait pas très bien comment que cette Église fut fondée, mais on est sûr qu'elle a pu, elle a dû vivre beaucoup de difficultés. Elle a dû combattre pour subsister au milieu de justement de tout ce mal, de toute cette ronde de Satan où trônait le territoire de Satan. N'est-ce pas intéressant de savoir qu'au milieu de telles ténèbres, Dieu a suscité en chandelier une lumière? Et on voit plusieurs fois comment que Dieu, là où il y a le plus de ténèbres, où il y a le plus de choses sombres, Dieu amène sa lumière. Dieu permet que cette lumière puisse resplendir, puisse continuer à illuminer les autres, même dans les temps les plus difficiles. Dans le prochain diable, Jésus va dire à cette église qu'il sait où il demeure, justement, c'est-à-dire dans un endroit qui n'est pas propice à cette lumière de Dieu. Donc voici qu'est-ce qu'il dit à cette église. Dans le verset 13, « Tu retiens mon nom ou tu me restes fermement attaché. » Ça veut dire que malgré le fait qu'ils sont dans un endroit qui n'est pas favorable à la proclamation de la parole de Dieu, l'église est restée fidèle, elle persévère, même lorsqu'arriva la persécution. On aimerait avoir un tel compliment de la part de notre Seigneur, de dire « Tu retiens mon nom, tu restes fermement attaché. » Qu'on a retenu ce nom durant toutes nos vies, que nous sommes restés fermement attachés à Dieu et à sa parole. Dans ce même verset, il est dit « Un témoin fidèle ». On voit l'exemple du disciple Antipas, qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc on ne connaît pas très bien ce qui s'est passé. Mais on sait qu'il a dit qu'il c'est un témoin fidèle. Encore une fois, nous aimerions entendre de la part de notre Seigneur de dire que nous sommes son témoin fidèle, que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ seul et que nous continuons de marcher malgré les défis, les persécutions. Donc dans ce bout de phrase, qui sont importants, témoin, qui veut dire que cet homme, Antipas, témoignait par ses paroles, par ses actes justement, son être tout entier, ce qu'il était avec Jésus. Il désirait être juste même dans un lieu qui était loin de resplendir de la lumière de Dieu. Et le deuxième bout de phrase, fidèle, veut dire qu'il n'était pas juste un témoin dans les temps favorables, mais qu'il était fidèle en toutes circonstances. C'est-à-dire que même lorsqu'arrivait la persécution et même la mort, il est resté fidèle. Comme on l'a vu aussi la dernière fois avec l'église de Smyrne, nous n'avons pas trop de crainte de mourir à cause de notre foi en Jésus-Christ. Mais l'ennemi de nos âmes, Satan, ne veut pas simplement juste nous faire mourir physiquement, mais il veut nous faire mourir spirituellement, c'est-à-dire d'enlever l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Alors peut-être qu'aujourd'hui nous ne sommes pas forcément dans un endroit où demeure le trône de Satan, même s'il est vrai qu'autour de nous on voit le mal de plus en plus se dessiner. Même si autour de nous, les gens font plein de choses, de débauches, d'immoralité, toutes choses, de lois qui sont contraires à la gloire, à la volonté de Dieu. Mais est-ce que le Seigneur pourrait nous dire à chacun de nous, dans ces prochains jours, dans ces prochains mois, tu es un témoin fidèle? Est-ce que nous allons être fidèles jusqu'au bout? Quel que soit ce que nous allons vivre, quel que soit comme épreuve que nous allons subir, est-ce que le Seigneur va nous dire, oui, tu es un témoin fidèle? Donc ça, c'est les points positifs. Maintenant, on voit les points négatifs dans le verset 14. Jésus a besoin de faire des reproches à cette Église, même si elle a persévéré, même si justement elle est restée fidèle à Dieu. On voit deux points importants que Jésus va reprocher. Premièrement, il y a la doctrine de Balaam. Donc, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, on le voit dans Nombre 22, 23, où justement le roi Balak, lorsqu'il vit arriver ce peuple hébreu nombreux, il a eu peur. Et il a envoyé chercher avec plein d'argent Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple. Et au début, Dieu l'avait dit à Balaam, tu ne vas pas y aller parce que tu ne peux pas maudire le peuple qui est mon peuple. Il n'a pas voulu. Mais après, avec beaucoup de richesse et d'insistance, il est quand même venu. Et même là, il donnait les paroles que Dieu lui avait données. Mais à un moment donné, il s'est laissé gagner aussi par la richesse, par la part et par d'autres choses. Et il a voulu amener le peuple hébreu par la ruse. C'est-à-dire qu'il a dit au roi Balak, on le voit dans le Nombre 25, comment qu'il fallait corrompre les hommes, il fallait envoyer des femmes vers le peuple d'Israël pour qu'ils puissent se livrer à la débauche et adorer le Dieu de ce peuple. C'est quand même une bonne stratégie hein, qu'ils ont faite. Mais la colère de l'Éternel ne s'est pas fait attendre. Dans le même chapitre, on voit que 24 000 personnes sont mortes dans le peuple d'Israël à cause de ce péché. Donc la doctrine de Balaam était de mépriser la chair et de diminuer l'importance de la pureté physique. Ce qui veut dire que les gens qui suivaient cet enseignement se disaient juste devant Dieu, dans toute leur âme, leur esprit, mais leur corps était voué au péché. Et c'est pour ce genre de doctrine que Paul a écrit dans Romains chapitre 3, verset 8. Romains chapitre 3, verset 8, il dit, pourquoi ne pas aller jusqu'à dire, faisons le mal pour qu'en sorte le bien? Certains du reste nous calomnient en prétendant que c'est là que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. Il y avait aussi donc la doctrine des Nicolaïtes, qu'on retrouve aussi dans l'église d'Éphèse. Donc on sait que d'après Irénée, un des premiers pères de l'église, Nicolas, appelé diacre dans Acte 16, Acte 6 plutôt, est un faux croyant qui aurait sombré justement plus tard dans l'apostasie et égaré de nombreux peuples, nombreux membres de l'Église grâce au crédit, grâce à la notoriété qu'il avait. Donc les enseignements étaient un peu proches de celui de Balaam, dans le sens qu'ils encourageaient les personnes à manger des viandes sacrifiées et à commettre la fornication. On voit dans le verset 14 de l'Apocalypse 2, que l'Esprit dit ces choses pour dénoncer ces pratiques. Mais la grande différence de l'Église d'Éphèse, qui a combattu ces idées et ces enseignements qui étaient présents dans leur Église, que fait l'Église de Pergame? Elle tolère, elle ne les combat pas. C'est-à-dire que le plus grand péché, c'était de faire de la débauche de toutes sortes, mais le plus grave, c'est que l'Église a laissé son compromis entrer parmi elles. Oui, il y avait des gens qui faisaient ce péché, ils allaient être condamnés. Mais l'Église a laissé cela au sein de l'Église se faire. Les dirigeants, les membres influents ont été entraînés dans ce péché de débauche, d'immoralité, et ça a entraîné de laisser le compromis gagner toute l'Église. À la prochaine dia, quels sont les compromis que nous pouvons aussi avoir? Comme par exemple la consommation de biens matériels, hein, le matérialisme. Est-ce que c'est un compromis dans notre vie? Qu'est-ce que va dire la parole? En Timothée chapitre 6, verset 10. En Timothée chapitre 6, verset 10 qui dit, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Lorsque je lisais ce verset, c'est un verset qui est très fort. Des gens qui étaient dans le Christ, qui étaient dans le Seigneur, mais où l'amour de l'argent a gagné. Et ils sont égarés dans ces pratiques. Ils sont éloignés de la foi à cause de l'argent. Ils ont eu plus de foi dans l'argent que dans le Dieu, dans le Seigneur des Seigneurs. On voit régulièrement, souvent, des chrétiens qui n'ont pas le temps de venir à l'église, pas le temps de faire des activités à l'église, parce qu'il faut gagner beaucoup plus. Vous toujours gagner plus d'argent pour le dépenser dans toutes sortes de biens matériels. Et on arrive dans une période que j'aime pas trop, le mois de novembre, début décembre, parce qu'on nous encourage beaucoup à dépenser. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de journées. Hein. Maintenant, il y a la journée du lundi fou, du vendredi le lundi fou, il y a, après le Boxing Day, toutes sortes de choses pour pouvoir nous encourager à dépenser. Je ne sais pas vous, mais bon, on dit que les dames, moi je dis toujours à ma femme par plaisanterie que le magasin qu'elle préférait, c'est Dollarama. Hein. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de choses à 1 $, mais quand on va dans un magasin en dollars, c'est rare que tu vas acheter juste une chose. Hein. Hein, tu passes dans les rangs, ah, ça c'est pas cher, ah, 1 $, ah, c'est 1 $, ah, 2 $, c'est pas cher. Et on remplit, j'ai connu des personnes qui remplissaient leur maison de choses de Dollarama, mais qu'ils n'ont jamais utilisées. Pour les hommes, ben pour moi, c'était le Canadian Tire. Hein. Quand j'arrivais, j'avais le magazine là, des spéciaux, je dis, ah, mais ça vaut la peine, je vais l'acheter ça. Puis après, on se rend compte qu'on achète, puis on n'utilise pas vraiment. Une fois sur deux, on n'utilise même pas. Donc, on est encouragé à dépenser. Encouragé à acheter, c'est pas cher. Tu en auras besoin un jour. Prends-le, fais-le. Ou bien, on peut être aussi en compromis par rapport à d'être en club social à l'église. C'est-à-dire qu'on fait plein d'activités pour être bien ensemble, pour s'encourager, mais où la présence de Dieu n'est plus vraiment là. Où la parole de Dieu ne réside pas réellement en nous. Il y a aussi peut-être les façons de se comporter, hein, comme les disputes, les tensions, non réglées, le non-pardon. C'est aussi un compromis que des fois, souvent dans nos églises, on fait. Et comment que, justement, ce compromis de non-pardon, de dispute, fait que les églises se séparent, se divisent. Il y a toutes sortes d'autres compromis qu'on peut faire encore aujourd'hui. Donc, prochain dia, on dit que cette lettre à l'église de Pergame fait référence à l'époque de la gloire de l'église, du compromis qu'elle a fait avec l'État. Rappelez-vous, si vous connaissez un peu l'histoire, au 3e siècle, l'empereur Constantin a promulgué que le christianisme allait devenir la religion d'État. Donc, l'église a prospéré parce que tout le monde se sentait chrétien. Mais ce qui était le plus grave, c'est que l'église n'était plus dirigée ou inspirée par des personnes qui étaient dans la parole de Dieu. Mais par des princes. Les princes, les rois étaient en même temps aussi des dirigeants. Regardez aujourd'hui, hein, le roi d'Angleterre, c'est aussi le chef de l'église anglicane. Est-ce que ces personnes mélangeaient politique, religion, de gloire aussi pour eux-mêmes? Aujourd'hui, on pourrait dire, ben, l'Église n'est plus comme fait ces choses-là. On a séparé l'Église justement de l'État. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, l'Église est encore assez semblable. C'est-à-dire qu'elle accepte le compromis dans sa doctrine. Un exemple de la doctrine de la prospérité. Cette doctrine qui gagne de plus en plus les Églises, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Mais même ici à Montréal, je connais des Églises où les pasteurs vont encourager de dire. Mais si tu donnes plus d'argent pour le Seigneur, tu vas être béni. Hein? Et si tu donnes un 20, c'est pas assez. Mais si tu donnes un 100 $, là, tu vas être plus béni. Ou un 500 $, encore plus. Aujourd'hui, l'Église du Québec, de Montréal, laisse beaucoup de compromis au sein du corps de Christ. Regardez tout ce qui se passe autour de nous dans les scandales. Hein? Dans l'Église catholique, avec les abus envers les enfants. Dans les églises évangéliques. Avec le pouvoir de l'argent et du pasteur qui manipule les membres. Mes amis, l'Église, c'est nous. C'est chacun de nous qui formons l'Église du Christ. Si on accepte le moindre compromis dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, alors est-ce que nous ne serons pas sous cette condamnation comme celle de l'Église de Pergame? Si nous savons en tant que personne, en tant que leader, en tant que pasteur, que des personnes vivent avec le compromis et que nous ne faisons rien, alors nous sommes autant coupables que la personne. C'est vrai que nous sommes dans une société où on encourage le compromis, qui est le compromis, c'est acceptable et non condamné. Mais est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, est-ce que nous devons être dans la même pensée que le monde? Ici, l'ennemi n'a pas besoin de jeter des gens en prison. Il fait bien pire. Il donne aux chrétiens tellement de choses qui semblent bonnes au début, qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, on rentre dans le compromis. On ne peut pas jouer avec Dieu, dans le sens qu'il sait exactement qui nous sommes, ce que nous faisons, même si nous restons des choses cachées. Dieu va le révéler un jour. Est-ce que ça va être un jour glorieux pour l'Église lorsque Jésus va revenir chercher son Église? Est-ce qu'on sera cette Église qui sera pure, sans tache, sans défaut? Ou est-ce qu'on sera cette Église qui vit en compromis, comme cette Église de Pergame? Alors, verset 16, il dit justement, « Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. » Il parle de cette épée qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Le Seigneur, dans sa grâce, veut enlever tout ce qui est, peut être ténèbre en nous. Mais pour enlever tout ce qui est tortueux dans notre vie, le Seigneur attend de nous qu'on puisse se repentir, qu'on puisse reconnaître nos péchés, qu'on puisse le reconnaître comme le seul Seigneur et Sauveur. Ce qui est vrai pour la sanctification personnelle de chacun de nous est vrai aussi pour l'Église. Jésus va venir montrer à travers sa parole nos mauvais agissements, nos péchés, nos compromis que nous acceptons. Aujourd'hui, nous avons justement cette parole de Dieu avec nous. Nous pouvons la lire, nous pouvons la méditer. Ce qui veut dire que nous n'avons pas d'excuse de ne pas savoir comment se tenir devant Dieu, parce que c'est écrit dans la parole. On l'a vu justement vendredi lors de la rencontre point de prière, impact prière. Comment que justement, on dit qu'il y a plus de 45 caractères que Dieu demande pour pouvoir développer dans notre vie chrétienne. Dieu veut que nous changeons, Dieu veut que nous transformons, Dieu veut que nous regardons à lui, que nous abandonnons ce qui nous tient encore lié de notre ancien homme pour pouvoir être dans ce nouveau homme que Dieu a transformé à travers Jésus-Christ sur la croix. Donc sans rien enlever à la fidélité et à la bravoure de l'Église de Pergame, le Seigneur veut la voir grandir en passant par une demande de pardon sincère pour se laisser entraîner dans des fausses doctrines. Il faut comprendre aussi une difficulté, c'est que si cette Église a laissé ces personnes dans l'Église un certain temps, c'est parce qu'il y a des affinités humaines qui se naissent. Peut-être c'était aussi dans les leaders ou peut-être les dirigeants qui faisaient ce genre de choses. Alors comment demander à ces personnes de quitter l'Assemblée par la suite? C'est la même chose pour nous. Si dans l'Église on laisse des choses avancer petit à petit, c'est difficile après d'aller dire à un ami, ben, ce que tu fais, ce n'est pas selon la parole de Dieu, et lui demander d'abandonner ou de quitter l'Église. Voilà pourquoi que lorsqu'on le sait, nous devons prier, nous devons encourager chacun à voir si c'est la voie que Dieu nous demande. Si nous voyons des choses qui sont dans la parole de Dieu, qui sont écrites et que nous ne faisons pas, nous devons nous repentir. Nous ne devons pas dire « Ah ben c'est juste un petit péché » ou « C'est juste parce que le monde propose, on va faire la même chose. » La parole reste la parole de vérité. Alors dans le dernier verset, verset 17, comme dans les autres lettres, « Que celui qui a des oreilles écoute. » Ce qui veut dire que ce n'est pas juste d'entendre ce qui est dit, que ça ne change rien dans notre vie, dans notre comportement, dans ce que nous faisons. Mais il est dit dans ce verset que Jésus donnera de la manne cachée. Alors, si vous avez déjà lu Maccabée 2, donc ça c'est des livres apocryphes qu'on retrouve surtout dans les Bibles catholiques. Donc dans 2 Maccabée 2, versets 4 à 8, il dit que lors de la destruction du temple de Jérusalem, Jérémie aurait caché le coffre de l'Alliance et qui contenait aussi justement la manne. Rappelez-vous que Moïse avait mis dans le coffre comme preuve. Donc Jérémie aurait caché le coffre de l'Alliance pour pas qu'il soit pris par les ennemis dans une grotte et que Dieu devait la faire réapparaître à la fin des temps. Et cette histoire est toujours restée dans les pensées du peuple d'Israël. Donc, ce qu'il veut dire dans cette lettre, c'est que cette manne est symbole de la vie spirituelle, comme l'est l'eau de vie que Jésus donne. Il fait aussi référence justement avec la doctrine de Balaam, que les chrétiens doivent se détourner des mets savoureux donnés aux idoles, mais se tourner vers le Seigneur qui nous donne justement une nourriture plus noble dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous que justement, pendant 40 ans, Dieu a donné cette manne à ce peuple, jour après jour. Il ne devait pas recueillir plus qu'un jour, sauf le jour du sabbat, il devait pouvoir pour 2 jours. Mais fidèlement, Dieu a donné cette manne à tous les jours pour démontrer comment il prenait soin de ce peuple, même en plein désert. On a besoin de prendre cette manne cachée, cette manne qui nous permet, que jour après jour nous permet de grandir, de progresser avec le Seigneur. Il est parlé aussi de cailloux blancs. Donc, on disait dans ce temps-là que le juge, lors d'un jugement, donnait soit un caillou blanc à un condamné s'il était acquitté, ou un caillou noir pour condamner. Donc, le caillou blanc veut signifier le droit du vainqueur d'entrer dans le royaume de Dieu avec une personnalité à lui, renouvelée par la grâce de Dieu. Donc, ce caillou est le passeport pour l'éternité, symbole de solidité et de pureté. Est-ce que nous serons nous-mêmes inscrits sur ce caillou blanc? Est-ce que le Seigneur va nous donner ce caillou comme signe de pureté, comme signe que nous sommes avec lui, que nous marchons avec lui? Et nous voyons encore un autre terme, un nom nouveau, qui indique l'acceptation par Dieu du croyant, de son autorisation à entrer dans la gloire. Comme nous l'avons vu justement vendredi, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, Dieu s'est sacrifié sur la croix pour enlever le vieil homme, celui qui était voué au péché, au mal, pour nous resplendir, pour nous remettre le nouveau homme, un nom nouveau, pour nous dire qu'on était racheté à un grand prix, que nous sommes purifiés, nous sommes lavés, et que nous sommes maintenant avec le Seigneur. Ce nom nouveau va nous permettre de laisser passer pour la gloire éternelle. Alors cette lettre à l'église de Pergame nous encourage à persévérer même dans la tribulation, dans les épreuves, de rester fermement attaché à Dieu et à la vérité de la parole de Dieu. Cette lettre nous montre aussi comment nous pouvons laisser le compromis gagner du terrain dans notre esprit, dans notre corps et même dans l'église, et qu'on a besoin de changer. Alors simplement courbons notre tête, réfléchissons, chacun de nous. Seigneur, est-ce qu'il y a un certain compromis que je laisse dans mon être? Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être que je fais par habitude et que ça ne me dérange plus? On a des fois souvent l'expression, c'est un joli péché, quelque chose qui ne dérange pas trop, quelque chose qui est accepté par la société. Qu'on puisse aussi prier pour l'église de Carrefour-Saint-Henri, parce que nous voulons aussi marcher dans la vérité, nous voulons aussi marcher dans la pureté. Est-ce qu'il y a des choses que nous acceptons et est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin d'abandonner dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ? Des choses qu'on fait par habitude, par obligation. Est-ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin, change et reviens, change. Sinon je vais venir avec cette épée à double tranchant. Alors qu'on puisse justement prendre un temps de prière pour nous, temps de prière pour l'Église, comme ce chant l'indique. J'ai qu'un désir, c'est d'être saint, mis à part pour toi. Oui, je choisis d'être saint, je choisis de laisser de compromis pour que je puisse être saint devant toi, Seigneur. Prêt à t'obéir. Le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose ce matin à chacun de vous. Peut-être pour vous personnellement, pour quelqu'un, peut-être dans l'Église, peut-être pour l'Église en général. Alors prions, prions, intercédons. Cette personne pure, sainte, sans défaut, sans compromis. Oui, Seigneur, comme ce chant le dit, nous choisissons d'être saints, mis à part pour toi. Nous voulons t'obéir ce matin. Seigneur, tu nous interpelles à travers cette lettre. Tu désires, Seigneur, que nous puissions continuer de persévérer malgré les difficultés, les tribulations. Aide-nous, Seigneur, encore cette semaine, devant peut-être les moqueries, devant peut-être le jugement des autres, de continuer de marcher d'une façon juste et digne devant toi. De continuer, Seigneur, de regarder les yeux fixés sur toi, afin que nous puissions aller chercher cette manne cachée, cette nourriture qui nous permet, cette nourriture spirituelle qui nous permet d'être revigorés, de continuer d'avancer avec toi, d'avoir ce nom inscrit sur ce caillou blanc qui nous donne accès au salut éternel. Seigneur, tu nous interpelles encore ce matin qu'il y a peut-être des compromis, des choses dans notre vie que nous laissons, qui ne te glorifient pas, qui ne sont pas dans ta vérité. Oh Seigneur, merci pour ce temps où tu nous as montré des choses. Nous les avons mis à tes pieds. Nous t'avons demandé pardon. Nous avons reconnu nos manquements. Seigneur, nous te demandons que toutes ces choses que nous avons laissées à tes pieds, nous ne puissions pas les reprendre, mais que tu puisses les cacher loin de nous, que tu puisses les mettre au plus profond de la mer pour que nous ne puissions pas les reprendre et que nous puissions marcher d'une façon juste et digne devant toi. Oui, je désire être saint. Je prends acte ce matin que je désire être saint. Je désire être purifié par toi. Continue ton travail à chacun de nous. Permets que, Seigneur, nous aussi, chacun de nous, nous puissions nous encourager les uns les autres. Peut-être, Seigneur, des personnes que nous connaissons, des chrétiens, Seigneur, des amis qui peut-être marchent dans le compromis. Seigneur, permets que nous puissions les approcher pour les encourager, pas pour les juger, mais pour les encourager à revenir dans la vérité, à revenir à marcher d'une façon juste et digne devant toi. Oui, Seigneur, tu nous interpelles pour que nous soyons cette église qui est pure, sans tache, lorsque tu vas revenir. Alors, Seigneur, on veut continuer de marcher avec toi seul. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner ta force, ta puissance encore durant cette semaine, afin qu'on puisse continuer, Seigneur, de marcher d'une façon juste et digne devant toi. Que nous puissions continuer, Seigneur, de laisser le compromis, de laisser les choses, les pensées de ce monde nous envahir, mais qu'on puisse, Seigneur, regarder uniquement à toi, à ta parole, à ta vérité, et que nous puissions être des témoins fidèles, comme tu l'as dit. Oui, Seigneur Jésus, merci, merci, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, que ta force, ta puissance, Seigneur, repose sur nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour, et que nous puissions continuer de proclamer que tu es le seul Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen.